RFI. RFI.
C'est l'heure de l'économie avec Daniel Valot. Bonjour Daniel.
Bonjour Lisa, bonjour à tous.
On va partir pour Pusan en Corée du Sud pour le G20 Finance qui débute aujourd'hui même.
Avec une équation à résoudre pour les ministres des Finances du G20. Comment réduire les déficits publics sans remettre en cause la reprise de l'économie? C'est une équation particulièrement difficile pour les pays de la zone euro. Les partenaires commerciaux des Européens devraient les encourager à les réduire ces déficits en faisant attention tout de même à ne pas casser le retour de la croissance.
Autre question au cœur du G20 Finance, celle d'une taxation du secteur financier.
Oui, l'idée est née dans le sillage de la crise financière. Le produit de cette taxe bancaire permettrait de sauver les établissements en faillite et d'éviter aux États de devoir les renflouer. L'idée est défendue par les États-Unis, par le Royaume-Uni ou encore par la France, mais elle se heurte à l'opposition de plusieurs pays, le Brésil par exemple ou encore le Canada, des pays qui n'ont pas été touchés directement par la crise financière et qui n'ont donc pas l'intention de pénaliser leur système bancaire. Écoutez les explications de Germain Belzile, directeur de recherche à l'Institut économique de Montréal.
On n'a pas à taxer nos banques en raison de problèmes qui survenaient en Europe et un problème qui est survenu aux États-Unis. Mais je vous dirais que ça va plus loin que ça. Nous croyons au Canada que nous avons un système qui fonctionne très bien et c'est plutôt ce système-là qui devrait être appliqué en Europe et aux États-Unis. En fait, on a une réglementation prudentielle au Canada qui a fait en sorte que les banques n'ont pas pris de risques excessifs. Ce que ça veut dire, c'est qu'on impose aux banques des contraintes importantes en termes de la quantité, de la qualité de capital qu'elles doivent maintenir, donc les réserves de liquidités. On limite fortement leur effet de levier, leur leverage. On les empêche donc de venir surendettés. Et puis, on n'a pas à les sauver par la suite quand elles prennent trop de risques. Et donc, la proposition canadienne, je crois, d'après ce que je comprends, c'est plutôt que les Européens et les Américains suivent le Canada.
Et le Canada qui peut se targuer d'être l'un des rares pays du G20 à avoir définitivement tourné le dos à la crise. On l'a évoqué cette semaine dans le journal Économie. Le pays affiche une croissance de plus de 6% au premier trimestre. Et c'est le premier pays du G20 à avoir remonté ses taux d'intérêt depuis que la crise a éclaté. L'économiste Germain Belzile était interrogé par Altine Lazage.
Également dans l'actualité économique de ce vendredi matin, Daniel, la contre-attaque de BP sur les marchés financiers.
Et selon le Financial Times, les dirigeants de BP vont répondre aujourd'hui aux questions de leurs actionnaires et des analystes financiers sur les conséquences de la marée noire en Louisiane. BP aura les moyens financiers de surmonter la catastrophe. Ce sera en quelque sorte le message que vont faire passer les dirigeants du groupe. Selon certains observateurs, le coût de la marée noire pourrait dépasser tout de même les 20 milliards de dollars. Hier, la note financière de BP a été dégradée d'un cran par deux des principales agences de notation.
La mauvaise passe de BP, c'est notre focus du jour. On retrouvera Valérie Rohard dans une heure. C'est le rêve de toutes les entreprises du secteur informatique s'implanter un jour dans la Silicon Valley en Californie.
Et ce rêve, une quinzaine de PME françaises vont l'approcher durant les prochains jours, durant une semaine. En effet, elles vont faire ces entreprises la tournée des investisseurs au cœur de la Silicon Valley. C'est UbiFrance, l'agence française pour le développement à l'international qui organise ce voyage. Parmi les entrepreneurs français qui vont y participer, Frédéric Trinel de la société Ecovadis, il est interrogé par Myriam Berber.
L'objectif d'un tel voyage est pour une société comme Ecovadis de pouvoir rencontrer des sociétés américaines implantées donc dans la Silicon Valley, des sociétés qu'on n'aurait absolument pas eu l'opportunité d'approcher en tout cas facilement à notre stade de développement sans l'aide du Tech Tour. Donc on parle de sociétés comme Sprint, Apple, Yahoo, IBM, des très grandes sociétés qui vont potentiellement nous déclencher des opportunités commerciales. L'autre volet, c'est de rencontrer des capital risqueurs, des financiers, pour éventuellement déclencher des financements pour lancer un marché comme les États-Unis. Les besoins en capitaux pour développer une société innovante sont plus importants sur un marché comme les US que sur le marché français, en l'occurrence. La Silicon Valley est quand même l'endroit où les capitaux sont disponibles en plus grand volume.
Les marchés financiers Tokyo étaient quasiment à l'équilibre à la mi-séance. Hier soir, la bourse de New York a marqué une pause avant les chiffres de l'emploi attendus aujourd'hui. Le Dow Jones est resté stable, plus 0,06%. On retrouve tout de suite Pierre-Yves Dugas pour faire le point sur la bourse américaine.
Les statistiques du jour hier ont été légèrement moins bonnes que prévues aux yeux de Wall Street. Ainsi, les chaînes de grands magasins n'ont affiché en moyenne qu'une hausse de 2,5% de leurs ventes au cours du mois de mai. Autre relative déception, les commandes à l'industrie en avril n'ont grimpé que d'1,2% et non pas d'1,8% comme on l'espérait. On anticipe l'annonce tout à l'heure de plus de 500 000 créations nettes d'emplois aux États-Unis au cours du mois de mai, ce qui marquerait une forte augmentation par rapport à avril. Le taux de chômage retomberait à 9,8%. Toutefois, au moins la moitié de ces postes nouveaux correspondraient à des emplois temporaires d'agents pour mener à bien le recensement.
C'était Pierre-Yves Dugas dans le journal de l'économie de Daniel Valo. Merci Daniel, bon week-end.
À lundi.
À lundi.